Le titre de la méditation ce matin, c'est Libéré pour une vie transformée par l'Esprit Saint. Libéré pour une vie transformée par l'Esprit Saint. Je vous invite encore à regarder l'Épître aux Galates que nous avons lu ce matin à partir du verset 13 jusqu'au verset 26. Donc, Libéré pour une vie transformée par l'Esprit Saint. L'Épître aux Galates est une épître qui a été écrite à un ensemble d'églises, hein, probablement de la partie sud de la province d'Asie mineure et des églises qui ont été fondées par Paul, Antioche, Icône, Lystre, Derbe, par exemple. Et l'apôtre Paul donc écrit à ces églises parce qu'il y a un danger qui menace cette église et même qui s'est déjà introduit dans l'église. Dans l'église se sont infiltrés donc des faux docteurs qui s'en prenait à la pureté de l'évangile. Quand on lit l'Épître aux Galates, on le voit bien. Et les croyants ont commencé, bien sûr, à se détourner de la vérité de l'évangile. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, au tout début du chapitre, dit au verset 6, chapitre 1, dit: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile, » dit-il. Et donc la technique de ces faux docteurs était de miner le message de l'évangile en discréditant le prédicateur de l'évangile. Donc ils disaient que Paul n'était pas un vrai apôtre, qu'il ne faisait pas partie des douze, qu'il s'était autoproclamé apôtre, et par conséquent son message devait être rejeté, hein, son message ne devait pas être considéré, il n'était pas fiable. Et l'apôtre Paul va donc défendre ici, dans cette lettre, son apostolat, et puis aussi il va défendre l'évangile qu'il prêche. Donc on pourrait dire que l'épître se divise à peu près en trois grandes sections. La défense de son apostolat dans les deux premiers chapitres, la défense de son évangile dans les chapitres 3 et puis chapitre 4, et puis les chapitres 5 et 6 sont des chapitres un peu plus pratiques où il va parler des implications pratiques de l'évangile. Et cet épître, donc, était l'épître, je ne sais pas si vous savez, mais préféré de Luther, hein, qui avait dit que c'était, il appelait cet épître son épître. Et il a même dit: « Je suis marié à cet épître, hein. » Et donc, pour dire combien il aimait cet épître, et on peut comprendre quelle place cet épître a eu donc, dans la Réforme. Et le commentateur John MacArthur, pasteur de MacArthur, dit ceci, il dit que l'épître aux Galates n'est pas simplement un traité de doctrine écrite sur un ton détaché, mais une lettre qui est profondément personnelle, écrite par un homme de Dieu au cœur profondément affligé à ses enfants. Il écrit à ses enfants spirituels dont la foi et la vie commencent à être minées par les faux docteurs. Et il dit que le cri de son cœur aux Galates est certainement ce qu'on trouve au chapitre 5, verset 1. Nous n'avons pas lu cela, mais le verset dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et c'est certainement pour cela que l'Épître aux Galates est appelée aussi la charte de la liberté chrétienne. Donc Paul, on pourrait dire ici, combat dans cette épître, il combat sur un double front. D'un côté, les judaïsants légalistes qui étaient attachés au rite de la loi et qui menaçaient par leur légalisme l'Église. Et puis de l'autre côté, probablement des chrétiens issus des croyants, mais qui sont issus du paganisme et qui étaient attachés à leur liberté sans borne et risquaient de changer, on pourrait dire, la grâce de Dieu en dissolution, comme le dit l'épître de Jude. Donc il y avait à la fois ce danger du légalisme et ce danger du laxisme. Et Paul va devoir lutter contre ces deux choses dans cette épître. Il va montrer donc que la liberté que donne l'évangile n'est pas du tout ce que pensent ni les légalistes ou ni les laxistes, hein. Les légalistes voulaient certainement pousser les laxistes et dire: voilà, à moins de suivre strictement un certain nombre de lois, et donc on ne peut pas s'assurer d'avoir le salut. Hein. Acte 15, verset 1, vous vous rappelez, si vous ne vous faites circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvé. Et puis, probablement, de l'autre côté, les laxistes, eh bien oui, c'est par la foi que l'on est sauvé. Il n'y a, c'est sans les œuvres. Alors, je peux vivre comme je veux, faire ce que je veux. De toute façon, je suis sauvé. Et donc, cela ouvrait la porte à une vie voilà, laxiste, une espèce de licence. Et l'apôtre Paul lutte contre cela dans son épître. Alors, il montre premièrement, on pourrait dire ici, hein, dans le passage que nous avons lu, que la liberté de l'évangile n'est pas l'abandon à la tendance pécheresse. La liberté de l'évangile, ça n'est pas l'abandon à la tendance pécheresse. Frère, dit-il au verset 13, dans Galates 5, verset 13, regardez encore ce verset, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc le chrétien est appelé à la liberté. Lorsque le monde considère l'évangile ou le christianisme, il le voit plutôt comme le contraire de la liberté. Enfin, si vous avez déjà remarqué ça, les gens vous disent parfois, « Oh, en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, vous ne pouvez pas manger ceci ou boire cela, vous ne pouvez pas sortir en boîte, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses. » Et c'est pour eux, c'est un, le Christ, l'évangile est vécu comme un ensemble de règles auxquelles il faut se plier et qui vous empêchent, en fait, de vivre. Mais l'Écriture parle tout autrement ici. Hein. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, hein, au chapitre 1, au verset 1 pardon, du chapitre 5. Et ici, il dit, vous avez été appelés à la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté et vous avez été appelés à la liberté. Ici. Mais de quelle liberté est-ce qu'il parle ici? Et on a dit, lorsque le monde parle de liberté, en général dans un domaine, c'est pour indiquer la permission de faire tout ce qui était interdit auparavant dans ce domaine. Par exemple, si on parle de la liberté des mœurs, eh bien, c'est pour faire tout ce qu'on était retenu de faire auparavant dans les mœurs. Hein? L'amour libre, quand le monde emploie des choses comme cela, ce n'est pas pour dire de bonnes choses, c'est pour dire voilà, qu'on peut aller le plus loin possible sans retenue, sans contrainte aucune, sans contrôle aucun dans toutes ces choses. Et donc, le mot liberté dans notre monde sonne comme l'absence de toute contrainte et la permission de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Mais nous savons, ce que nous dit l'Écriture, que les hommes sont esclaves de leurs passions et de leurs plaisirs. Titre 3.3 dit « car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, esclaves, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. » Donc la liberté en question ici, ce n'est pas l'absence de contrainte ici, mais c'est la liberté de cet esclavage qui consiste à croire qu'il faut accomplir absolument la loi pour être soi-même, par ses propres forces, pour être favorable à Dieu. Et Paul dit, non, nous avons été, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, vous n'êtes plus sous le joug de l'esclavage, sous le joug de la loi, et donc vous avez été appelés à la liberté. La liberté de l'évangile, dit-il, n'encourage jamais à une vie selon la chair. La liberté de l'évangile n'encourage jamais à une vie selon la chair. La prédication de Paul sur l'évangile de la grâce, dans ce livre, dans cet épître, la justification par la foi seule en Christ, sans les œuvres de la loi, a poussé ses détracteurs à dire qu'un tel évangile encourage à la licence, encourage au laxisme. Et on raconte que lorsque les réformateurs ont mis à l'ordre du jour hein, le sola fide, tous les solas de la réforme, eh bien, l'Église catholique romaine a réagi en disant que si telle est la doctrine, c'est-à-dire le salut par la grâce, par la foi seule, sans aucune œuvre, eh bien, il dit, si telle est la doctrine, eh bien, la vie saine devient inutile et superflue. Mais l'apôtre Paul souligne qu'il n'en est absolument pas, ce n'est absolument pas le cas. Il dit, vous avez été appelés à la liberté, seulement, dit-il, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc, ce qu'il dit ici, hein, c'est que on ne peut pas, sous couvert de liberté, se croire que l'on est libre de faire tout ce que l'on veut, parce que ce n'est pas cela la liberté dont il parle ici. Le mot prétexte ici est un mot militaire qui désigne la base depuis laquelle on lance des opérations. Hein. Base militaire de l'OTAN à un endroit hein, dans le monde, ça veut dire qu'on peut, de ce point-là, lancer des opérations militaires. Et donc la liberté de l'évangile, dit Paul, ne constitue pas une base depuis laquelle je lance tout ce que j'ai envie de lancer. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une occasion qui m'est donnée pour faire ce que je veux, quand je veux et où je veux. Et l'orateur John Stott disait ceci, il disait « La liberté chrétienne n'est pas la liberté de péché, mais la libération du péché. » La liberté chrétienne n'est pas la liberté de péché, mais la libération du péché, comme on va le voir un peu plus tard. Donc la liberté de l'évangile n'encourage jamais à une vie selon la chair. Troisièmement, la liberté de l'évangile encourage à l'accomplissement de la loi. Regardez versets 13 à 15 du chapitre 5. Il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et donc la liberté ici encourage même à l'accomplissement de la loi. Loin de détourner de la loi, elle encourage à accomplir la loi parce que il dit elle nous pousse à aimer, à être serviteurs les uns les autres. Et aimer, c'est l'accomplissement de la loi tout entière. Et donc les faux enseignements, on peut le voir ici, conduisent toujours à de la division. Il y avait certainement dans ces églises, hein, ceux qui penchaient du côté juif un peu, et puis ceux qui se vantaient de leur liberté et de leur indépendance. Et il y avait certainement du mépris réciproque, parce que l'apôtre Paul dit ici, rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Il dit, verset 15, de ne pas se mordre, de ne pas se dévorer, et de prendre garde à ne pas être détruit. Donc il y avait certainement des rivalités qui s'étaient installé à cause des positions des uns et des autres. Et donc Paul donne une sorte de vocation, on pourrait dire, à la liberté. Il dit que le service mutuel motivé par l'amour, ça c'est la vocation de la liberté. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Ne prenez pas votre liberté comme un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous au contraire par amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, tu aimeras pardon, ton prochain comme toi-même. Et donc à tous ceux qui mettaient en avant la loi avec ses exigences et ses observances, et qui méprisaient les autres parce que voilà, ils ne faisaient pas pareil, qui ne se mélangeait pas aux autres, qui ne rentrait pas chez eux pour manger avec eux, eh bien, l'apôtre Paul dit que toute la loi se résume dans cette parole, l'amour du prochain. Et puis aussi à ceux qui brandissaient leur liberté et le droit de ne pas faire des choses, qui disaient « nous sommes libres à l'égard de la loi » et puis qui méprisaient aussi par ce fait les autres, Paul dit « eh bien, il y a une loi, c'est l'amour du prochain ». Et donc, la liberté de l'évangile ne consiste pas en un abandon des tendances de la chair. Loin de là, elle nous pousse dans une direction bien particulière et bien contraire à cela. L'évangile, donc, dit que notre acceptation devant Dieu donc, ne dépend pas, bien sûr, de notre observance de la loi et particulièrement de la loi ritualiste, de la circoncision, comme ici dans le cas ici, mais elle dépend de la foi dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Mais cependant, l'Évangile ne nous dispense pas d'obéir à la loi, bien au contraire. Et aimer son prochain, c'est accomplir la loi. Donc, la liberté de l'Évangile ne nous libère pas d'obéir aux commandements. On a considéré les 10 commandements il n'y a pas très longtemps, aux commandements moraux de la loi. Au contraire, hein, elle nous pousse à y obéir. Et Arthur Pink disait ceci, hein, je lis, il dit que la grâce divine n'est pas donnée aux hommes dans le but de les libérer de leur obligation, mais plutôt dans celui de leur donner un motif puissant de s'acquitter encore plus diligemment et avec plus de reconnaissance de ses obligations. Et il ajoute, utiliser la grâce de Dieu comme raison de s'exonérer de l'exécution de son devoir revient dangereusement à transformer la grâce de Dieu en excuse pour la lascivité. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Hein. Ceux qui utilisent la liberté que donne l'Évangile, le fait qu'on n'est pas maintenant tenu d'œuvrer par nous-mêmes et présenter nos œuvres, notre obéissance à Dieu pour être, espérer avoir sa faveur, eh bien, ne nous libère pas du tout, hein, de nos obligations. Au contraire. Et donc, si telle est notre pensée, eh bien, nous sommes en train de changer, dit l'Écriture, comme le dit l'Épître de Jude, changer la grâce de Dieu en dérèglement. Donc, notre premier point, donc, la liberté de l'Évangile, ici, n'est pas un encouragement, n'est pas un abandon, d'accord, aux tendances de la chair. Deuxièmement, on veut voir ici que la liberté de l'Évangile implique une vie sous le contrôle de l'Esprit-Saint. La liberté de l'Évangile implique une vie sous le contrôle de l'Esprit-Saint. Verset 16 à verset 18, nous allons lire ensemble. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Donc la liberté de l'Évangile implique une vie sous le contrôle de l'Esprit. Ce n'est pas une vie sans contrôle. Ce n'est pas de l'anarchie. C'est une liberté qui nous place sous un contrôle particulier, celui de l'Esprit-Saint. Et donc l'apôtre Paul dit, « Je dis donc ici, marchez selon l'Esprit. » Puisqu'il a dit que, au début, hein, qu'on ne peut pas faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Il dit donc, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est en train de dire ici qu'il faut se focaliser. Celui qui dit, qui professe être à l'Évangile, appartenir à l'Évangile et connaître la liberté que donne l'Évangile, doit marcher avec sa pensée focalisée sur l'Esprit-Saint et non sur la chair. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ici. Donc la meilleure et unique manière de mener une vie qui soit non soumise à la licence et à la chair, c'est de se focaliser sur l'Esprit, de se soumettre à la direction de l'Esprit de Dieu, vivre sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez, l'apôtre Paul ne dit pas ici qu'il faut travailler sur ses œuvres de la chair, sur les tendances charnelles. Bien sûr, à certains endroits dans la Bible, on trouve qu'il ne faut pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais ici, il dit qu'il faut se soumettre à l'Esprit, se laisser contrôler par l'Esprit. Et donc, il exhorte ici à une vie qui est continuellement vécue, ce que ça veut dire, marcher continuellement, c'est le sens ici, sous le contrôle de l'Esprit, progresser continuellement en se soumettant à l'Esprit ici. Et notons que c'est un impératif qu'il donne ici, c'est un ordre. Cela donc signifie que la volonté, l'engagement du croyant doit être sollicité dans cela. Il n'y a pas de place ici pour la passivité. La liberté de l'Évangile ne conduit pas à la passivité, mais à une marche dans laquelle le croyant cherche à se placer constamment en lisant la parole, en priant, en la méditant, eh bien, continuellement sous la domination et sous la puissance, sous le contrôle de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul dit que si vous marchez ainsi, eh bien, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, il ne dit pas « essayez de ne pas accomplir les désirs de la chair afin d'être soumis au Saint-Esprit ». Il dit non, il dit « marchez selon l'Esprit et vous verrez que les œuvres de la chair, eh bien, vous n'allez pas mener à leur plein épanouissement les œuvres de la chair. » Cela, bien sûr, ne veut pas dire qu'on ne va pas ressentir des impulsions ou une incitation à pécher, mais il dit « si la vie est contrôlée par l'Esprit, cette amorce-là sera freinée. » Mais si, voilà, je laisse les choses aller et venir comme elles vont, eh bien, je risque d'aller jusqu'au bout de cela. On peut avoir, pour prendre une image, une pensée de faire quelque chose, mais tout de suite, quand on a l'Esprit de Dieu qui agit en nous, nous interpelle par la parole, eh bien, voilà, on revient et on se repent et on demande pardon au Seigneur et on redémarre et on marche à nouveau avec le Seigneur. Marcher selon l'Esprit, donc, est le seul moyen de ne pas succomber à l'inclination de la chair. La chair a des désirs et des passions qu'elle cherche absolument à assouvir. Et il est impossible de résister ou de combattre à la chair par ses propres forces, sans se soumettre à l'Esprit. Et donc, Paul dit ici, c'est vraiment le fait de s'abandonner à la direction de l'Esprit, pas de manière passive, de manière active quand même, il faut œuvrer, mais s'abandonner sous la direction de l'Esprit, que l'on peut ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et donc cela suppose bien sûr que le Saint-Esprit habite en nous, c'est-à-dire qu'on est un enfant de Dieu racheté par le précieux sang de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne peuvent pas lutter contre les tendances de la chair et ne peuvent qu'accomplir les œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit en Romains 8, 9 que pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous voyez, s'il dit, détournez-vous d'une vie par la chair, ne vous préoccupez pas de la chair et préoccupez-vous de ce que doit être une vie qui est menée sous la direction du Saint-Esprit, la domination du Saint-Esprit. Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, donc, pour pouvoir vivre cette vie, cela suppose bien entendu que l'Esprit de Christ habite en soi et que l'on soit un enfant de Dieu. Donc, se focaliser vraiment non sur la chair, mais sur l'Esprit. Et donc, aussi, on voit que l'Esprit ici donne la liberté de ne pas succomber au péché. Vivre sous ce contrôle de l'Esprit, c'est savoir que l'Esprit nous donne la liberté de ne pas succomber au péché. Verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Paul dit, il faut se soumettre à l'influence et au contrôle du Saint-Esprit, car il y a opposition entre la chair et l'esprit. Il dit, leurs désirs sont différents. Et le mot désir, ça veut dire être parfois traduit par convoiter, être tourné. Ils convoitent, ils aspirent à des choses bien spécifiques. Il dit que la chair aspire, est tournée vers quelque chose et l'esprit aussi est tourné vers quelque chose. Et ces choses sont diamétralement opposées entre elles. Les désirs de la chair sont opposés, sont aux antipodes des désirs de l'esprit. Et pourquoi cela? Il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bien que régénéré, n'est-ce pas, le croyant vit aux prises avec la chair. Il a l'Esprit de Dieu, mais aussi sa nature pécheresse. Et c'est ce qu'il est, n'est-ce pas, en vertu de ce que nous sommes, en vertu de notre naissance naturelle. Nous sommes des pécheurs. Et nous avons notre tendance naturelle est d'aller toujours, comme le dit dans la Genèse, le cœur de l'homme est toujours tourné de plus en plus vers le mal ici. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme dans Éphésiens chapitre 4, verset 22, où il dit « Eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses ». Il parle, voilà comment est cette nature pécheresse que nous avons. Et donc, il en résulte, même pour le croyant dans lequel demeure cette nature, il en résulte un conflit. ici. Et ce que l'apôtre Paul exprime ici, s'il y a opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, c'est qu'il y a un conflit que le croyant vit. Et il dit, cela est, il en est ainsi, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et de qui il parle ici quand il dit vous? Il parle de vous avec la tendance naturelle, pécheresse que vous avez. Vous voudriez naturellement et charnellement faire ceci. Mais l'Esprit Saint vous fournit maintenant que vous êtes en Christ la puissance et la liberté de ne pas le faire, de ne pas faire ce que vous voudriez. Et donc je crois que c'est ça qu'il dit quand il dit afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, quand vous êtes sous le contrôle de l'Esprit, vous avez la puissance de l'Esprit et vous avez la liberté de l'Esprit de choisir et de ne pas succomber. Le péché, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, n'a plus, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Il n'a plus de pouvoir sur vous. Celui qui a l'Esprit de Dieu qui habite en lui, il a, par l'Esprit de Dieu qui agit en lui, la possibilité de dire non. Par ses propres forces, il ne peut pas. Mais par l'Esprit Saint qui agit en lui, il le peut. Et Paul dit, voilà, les désirs sont contraires ici, afin que vous ne fassiez point, vous expérimentiez que même si tant naturellement vous avez cette tendance à faire à ceci, eh bien, l'Esprit en vous vous donne la liberté de faire le bon choix et d'être obéissant. Donc, si vous êtes conduit par l'Esprit, dit-il, vous n'êtes point sous la loi parce que vous avez cette liberté que vous donne l'Esprit. La contrainte de l'Esprit est donc supérieure ici à la contrainte de la loi. Troisièmement, eh bien, je voudrais souligner que la liberté de l'Évangile se manifeste par une transformation de vie évidente ici. La liberté de l'Évangile, la vie, se manifeste par une transformation de vie évidente. Verset 19, verset 26, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et donc la vie manifeste toujours qu'il y a l'évidence qu'il y a la vie. Elle se manifeste par une évidence. C'est la différence entre un corps mort et un corps vivant. Dans l'un, il n'y a aucune manifestation de vie. Dans l'autre, il y a des signes qui montrent qu'il y a la vie. Et un type de vie particulier manifeste une évidence particulière aussi. Ce que l'apôtre Paul montre ici. Il dit que la vie dans la chair manifeste une évidence particulière. Et plus tard, ici, à partir du verset 22, et la vie dans l'esprit manifeste une évidence aussi particulière. Donc, après avoir dit que la chair et l'esprit sont dans des désirs opposés, Paul va établir maintenant un contraste en opposant les manifestations extérieures, on pourrait dire, de la chair et de l'esprit, que produit la chair et que produit l'esprit. Autrement dit, il montre que la véritable liberté de l'Évangile manifestera une évidence extérieure que seul l'esprit peut produire et qui est radicalement différente d'une vie sous la direction de la chair. Je le redis comme ça. Donc, il montre que la véritable liberté de l'Évangile manifestera une évidence extérieure que seul l'esprit peut produire et qui sera radicalement différente d'une vie sous la direction de la chair. Il commence d'abord par montrer l'évidence d'une domination de la chair. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes. Et il dresse une liste, qui est une liste non exhaustive, hein, parce qu'il dit, et toutes les choses semblables ici, mais qu'on pourrait ranger peut-être en quelques catégories. Donc on va pas les voir tous, le temps nous manquerait pour passer du temps là-dessus. Mais juste, il parle, on pourrait dire, de tout ce qui touche à la sexualité, à la débauche, à l'impureté, au dérèglement, à toute activité sexuelle illicite. Et on pourrait ajouter à cela la sensualité dans les manières que l'on a de se vêtir et autre chose, dans les mots aussi, hein, où on peut être parler d'une manière qui est sensuelle. Donc tout ce qui concerne l'activité sexuelle illicite. Et puis il parle aussi de l'idolâtrie au sens large, hein. Il parle de l'idolâtrie, de la magie, de tout ce qui prend place de Dieu dans la vie, c'est de l'idolâtrie. Donc on pourra, ce n'est pas simplement, quand on parle d'idolâtrie, on ne pense pas simplement aux personnes qui se prosternent devant un bout de bois, hein, mais on parle aussi de ceux qui se prosternent devant leur travail, qui se prosternent devant leur famille, de ceux qui se prosternent devant leur santé, de ceux qui se prosternent devant leur voiture, devant leur bien, devant l'argent. Tout cela, toutes ces choses sont considérées comme de l'idolâtrie dès que ces choses prennent la place qui revient et l'honneur et le temps qui revient à Dieu. Et puis, on pourrait dire aussi qu'il y a une catégorie où il parle des rivalités et des relations, hein, rivalités, querelles, jalousies, animosités, disputes, divisions. Et cela, peut-être on peut dire, bon, tout ce qui concerne la débauche, tout ça, c'est pas moi, mais peut-être les relations, hein, que nous avons les uns avec les autres, il dit, c'est là qu'on en voit aussi la manifestation des œuvres de la chair. Et puis il ajoute même les excès de table, manger à l'excès. Peut-être qu'on ne fait pas attention à ça, mais quand on mange à l'excès, eh bien, il dit que ça, c'est une œuvre de la chair. On doit être raisonné et retenu dans tout ce que l'on fait. Donc, on peut prendre les excès de table et les élargir aussi à tous les excès, tout ce que l'on fait par excès. Mais y compris aussi ici, les excès de table, manger et le boire. Donc, vous voyez que les œuvres de la chair pénètrent toute la sphère de la vie humaine. Tout ce qui concerne la vie humaine et les relations que nous avons les uns avec les autres et l'attitude que nous maintenons envers Dieu. Et donc relevons ici l'avertissement que Paul donne néanmoins au verset 21. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc il est illusoire de dire que l'on est libre dans le Seigneur si c'est pour vivre de la manière qui vient d'être décrite juste ici auparavant. Paul affirme donc avec force que ceux qui pratiquent cela n'hériteront pas point le royaume de Dieu. Donc ne peuvent pas se prévaloir d'être au bénéfice de la liberté de l'évangile, d'être au bénéfice de l'évangile, ni d'avoir l'Esprit de Dieu parce qu'ils pratiquent ces choses. Et il dit, il est vigoureux hein, quand il dit cela, il dit, je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, je vous le rappelle, attention, que ceux qui commettent, ceux qui continuent, ceux qui pratiquent continuellement, on pourrait dire, ces choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et donc c'est un avertissement fort pour nous à considérer notre vie, à considérer quelles sont les œuvres que nous produisons, ce que nous pratiquons régulièrement. Avec peut-être joie, que nous aimons même pratiquer, peut-être. Et si tel est le cas, il n'y a aucune assurance ici d'être un enfant de Dieu. Il dit, ceux qui le font, à coup sûr, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et il montre deuxièmement, donc après avoir montré ici l'évidence d'une vie sous la domination de la chair, il montre. Quelle est l'évidence d'une vie animée par l'esprit? Mais le fruit de l'esprit. Il établit ici un contraste. Voilà. Ça, les œuvres de la chair sont évidentes pour ceux qui disent, voilà, ils sont libres dans le Seigneur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il dit, voilà, les œuvres de la chair sont évidentes. Et de même que les œuvres de la chair sont évidentes, les œuvres de l'esprit, enfin, le fruit de l'esprit aussi, est évident. Il y a un contraste qu'il établit ici. Et donc, il dit, on ne peut pas se tromper sur la provenance, car les manifestations sont de nature complètement différentes. Il y a les œuvres de la chair qui sont décrites, et puis maintenant il décrit le fruit de l'esprit. Les manifestations sont complètement différentes. Et donc on ne peut pas se tromper sur la provenance et sur la réalité du salut selon que l'on voit ces œuvres-là ou celles-ci. Selon que l'on voit les œuvres de la chair se manifester régulièrement ou que l'on voit les œuvres de l'esprit. Le fruit de l'esprit, excusez-moi, se développer. Et donc, il parle ici de la parution du fruit. Il dit que la parution du fruit de l'esprit est inévitable lorsque l'esprit est là. Donc, l'évangile est une, dans une vie se manifestera toujours et immanquablement par la production visible du fruit de l'esprit. C'est ce qu'il dit ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est cela. Ce n'est pas le fruit que le croyant produit, c'est le fruit de l'esprit. Donc l'esprit produit son fruit. Et quand il est dans une vie, il produit ce fruit-là. Donc c'est pour cela que c'est immanquable, hein, quand dans la vie de quelqu'un qui connaît réellement Christ. Il y a une transformation évidente qui apparaît dans la vie du croyant et qui atteste qu'il a en lui l'Esprit Saint et que celui-ci œuvre en lui. Et c'est exactement ce que Jésus dit à Nicodème. Vous vous rappelez, lorsqu'il a cet entretien dans Jean chapitre 3, il dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et Jésus prend l'exemple du vent et dit à Nicodème, voilà, on ne sait pas comment ça fonctionne. On le voit venir, on sait qu'il passe par là, on sait qu'il a telle direction, qu'il est fort, qu'il est faible, etc. Mais on ne sait pas grand-chose du vent. Et donc le point de Jésus ici, c'est de dire que tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va, tu ne peux pas expliquer pourquoi il est là. Il semble aller quelque part et puis subitement changer, tu ne sais pas pourquoi. Mais une chose est certaine, c'est que tu en ressens l'effet. C'est ça que Jésus veut dire ici. Et donc, le Saint-Esprit, il en est de même. Il dit, le Saint-Esprit est souverain. Le mécanisme de la nouvelle naissance nous échappe. Le mode d'opératoire de la nouvelle naissance nous échappe. C'est mystérieux et caché. Qui peut expliquer comment le Saint-Esprit opère pour produire des fruits comme cela dans la vie de ceux qu'il rachète? C'est un miracle. Comment décrire que le Saint-Esprit vienne et transforme complètement une vie? La mécanique de l'affaire, si vous voulez, nous échappe. Ça échappe à notre compréhension. Mais ça n'échappe pas à notre observation. C'est ce que Dieu dit, Jésus dit ici à Nicodème. Tu ne sais pas où va le vent, mais tu ressens ses effets. L'observation, tu l'as, tu peux la voir. Eh bien, il en est de même, il dit ici, de l'esprit. Même si cela échappe à notre compréhension, cela n'échappe pas à notre observation. Les fruits sont évidents, ils ne vont pas échapper à notre observation. Il y aura un effet tangible, immanquable, dans la vie de celui qui est né de l'esprit. De même qu'il y a un effet laissé par le passage du vent. Et la déclaration formelle de Jésus, c'est qu'il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il en est ainsi pour l'apôtre Paul, il en sera ainsi pour toi, Nicodème, il en est ainsi pour les disciples. Et puis, non, il dit pour quiconque est né de l'Esprit, il en est ainsi, ça veut dire qu'il n'en sera pas autrement. Le fruit de l'Esprit sera immanquable dans la vie de celui qui a Christ, qui a l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Et donc, la liberté de l'Évangile opère une transformation radicale et l'apparition de fruits, du fruit caractéristique de l'esprit. Mais notez aussi que le contraste ici que Paul établit n'est pas simplement le contraire. Il ne dit pas que l'esprit fait le contraire de la chair. Hein. Il ne dit pas, par exemple, le fruit n'est pas la débauche, le fruit n'est pas l'idolâtrie. Il dit pas, mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas la magie, etc. Bien sûr, quand on a l'esprit de Dieu qui agit en nous, on se détourne de ces choses. Mais il dit ici quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il s'agit moins de choses à ne pas faire que d'un caractère nouveau qui est développé. Je ne sais pas si vous voyez bien cela. Il dit, notez ici que le fruit, d'abord, il est au singulier. C'est une unité. Et puis, il parle de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la douceur, de la maîtrise de soi. Il dit que la loi n'est pas contre ces choses. C'est tout un caractère qui est développé. Ce sont pas des... Quand on regarde, ce ne sont pas des actions qui sont données ici. Ce ne sont pas des actes, mais c'est tout un caractère qui est développé dans la vie du croyant. Et c'est un fruit unique avec des facettes différentes. On ne peut pas dissocier l'un et puis de l'autre. On ne peut pas dire, moi, j'ai la douceur, mais je n'ai pas encore l'amour. Moi, j'ai la joie, mais je n'ai pas encore la paix. Ce n'est pas possible. C'est un fruit. C'est un fruit. et il est indivisible. Et ce fruit, c'est plus que simplement de l'obéissance à la loi. C'est une vie qui développe le caractère de Christ. Parce qu'on pourrait voir, n'est-ce pas, qui est patient, qui est amour, qui sait qui est joyeux, qui sait qui est bienveillant. C'est Christ qui est décrit ici dans cela. Et le fruit de l'esprit, c'est qu'on se manifeste de manière à faire paraître le caractère de Christ. Donc c'est une vie qui est transformée à l'image de Christ, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, 29. Il dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. » Donc la manifestation du fruit se voit dans la relation, ici verset 26, hein, d'amour qui existe aussi les uns envers les autres. Et l'amour, hein, c'est, je pense, c'est le fruit qui, c'est l'aspect qui englobe tous les autres vertus qui sont données ici. Donc, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, le salut ne consiste pas à dire « J'ai reçu le Seigneur il y a tant d'années et je sais que je suis au Seigneur parce que j'ai prié avec tel grand conférencier de passage ou que j'ai été baptisé dans telle bonne église par un tel. » Si tout ce que l'on a avancé pour dire que nous connaissons la liberté de l'Évangile, c'est cela, eh bien, c'est bien maigre. C'est bien maigre. L'apôtre Paul donne des choses qui sont beaucoup plus profondes ici. L'apôtre Paul, après avoir expliqué ce que c'est que le salut par la foi dans les chapitres précédents, il développe ici toute une section où il montre l'évidence de cette justification par la foi, qui est la transformation spirituelle que produit le Saint-Esprit. Si vous lisez à partir du chapitre 5, il y a question plusieurs fois du Saint-Esprit, hein, dans ces chapitres 5 et puis aussi un peu dans le chapitre 6. Au chapitre 3, verset 3, il dit qu'il pose une question aux Galates. Il dit ici, vous avez commencé par l'Esprit, hein, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc, une vie chrétienne, c'est une vie qui commence par l'esprit. C'est une vie qui commence par l'esprit et qui continue par l'esprit. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un dit « J'ai reçu Christ dans ma vie il y a tant de temps », ça veut dire... Si c'est vrai qu'il a reçu l'Esprit. Et ça veut dire quoi? Ben que cet Esprit continue, est là et qu'il continue à œuvrer. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Hein. Donc, quand Dieu commence, il achève. Et l'apôtre Paul, il s'étonne, il dit, ben, vous avez commencé par l'Esprit. Il n'y a pas d'autre manière de continuer. On est sauvé par l'Esprit de Dieu. Et on vit par l'Esprit de Dieu. On est sauvé par la grâce. On vit par la grâce, ici. Et donc, il faut être attentif, bien sûr, à cela. La liberté de l'Évangile, ici, la liberté de l'Évangile, implique une vie sous le contrôle, implique une vie, bien sûr, qui est toujours sous le contrôle de l'Esprit. Et la liberté de l'Évangile, aussi, implique plutôt une vie qui est transformée, ainsi, par l'Évangile. Donc, une vie qui est transformée par l'Évangile. Je pense que j'ai mis une note en moins, excuse-moi. Voilà, plutôt la liberté de l'Évangile, ce que je voulais dire, hein, se manifeste par une transformation de vie qui est évidente. Hein. La liberté de l'Évangile se manifeste par une transformation de vie qui est évidente ici. Donc, je vais conclure, chers frères et sœurs, sur cette partie-là, ici. Nous ne devons pas confondre le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Nous ne devons pas confondre ici le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. L'exercice des dons n'est pas un signe d'une œuvre de l'esprit dans le cœur. Et quand l'apôtre Paul parle ici du fruit de l'esprit, alors on ne le développe pas parce qu'on va le faire... la semaine qui vient, mais quand il parle de fruits de l'esprit, il ne parle pas de ce que certains appellent le don de l'esprit, de choses que l'on peut faire, de dons qui sont donnés pour faire ceci, la guérison, la prophétie, comme on lit dans l'Écriture, des miracles, des dons, voilà, des dons spécifiques, des dons particuliers. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il indique que les manifestations, d'accord, des dons spectaculaires peuvent exister en l'absence même d'amour. Et l'amour, rappelez-vous, si on le lit, c'est le fruit de l'esprit. Donc, on peut avoir des dons de l'esprit et ne pas avoir le fruit de l'esprit. D'accord? On peut avoir des dons, manifester des dons de l'esprit et accomplir des choses. Matthieu chapitre 7, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On peut avoir ces choses qui sont des dons que l'esprit, des choses que Dieu permet de faire, okay, sans avoir ici l'œuvre de l'esprit dans le cœur. L'exemple de Judas, hein, il est parti, il a fait des miracles. Quand Jésus a envoyé les disciples à des miracles, il était avec eux et il a eu, il a dit, la Bible dit que Dieu leur a donné, Jésus leur a donné le don de faire des miracles. Il a eu ce don-là aussi, qui a été donné par Jésus lui-même. Mais, voilà, il n'a pas eu l'esprit de Dieu le fruit de l'esprit qui agit en lui. Et Paul dit, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le grand prédicateur ici, Jonathan Edwards, disait ceci, il dit, nous préférerions jouir pendant un quart d'heure seulement des douces influences de l'esprit, plutôt que d'avoir des visions et des révélations prophétiques pendant toute une année. Les premières nous permettent de voir la beauté divine spirituelle de Christ, donc l'influence du Saint-Esprit, la beauté divine spirituelle de Christ, sa grâce infinie, son amour expiatoire, elle suscite en nous les saints exercices de la foi, de la charité, ainsi qu'un doux contentement et une humble joie en Dieu. Il décrit ici, si vous comprenez bien, le fruit de l'esprit, hein, il dit, elle suscite en nous les saints exercices de la foi, qui est le fruit de l'esprit, de l'amour, la charité, qui est le fruit de l'esprit, un doux, la douceur, qui est le fruit de l'esprit, le contentement, la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit, et une humble joie en Dieu, qui est aussi le fruit de l'esprit. Il dit, ça, c'est l'assurance que l'Esprit de Dieu agit en nous. Il dit, je préfère cette influence-là pendant un quart d'heure que, voilà, avoir des révélations. Comment il dit ça? D'avoir des révélations prophétiques pendant toute une année. Donc, c'est important pour nous de ne pas confondre, de ne pas chercher les dons de l'Esprit, mais vraiment la manifestation du fruit de l'Esprit. Et puis, c'est le fruit qui détermine toute réalité. C'est le fruit qui détermine toute réalité. Ce n'est pas ce que l'on dit simplement, ce n'est pas ce que l'on affirme. Je peux proclamer bien haut que je suis libre en Christ, que je suis un enfant de Dieu. S'il n'y a pas le fruit, eh bien, il y a une grande question sur la réalité de ce salut. Et Jésus lui-même a dit que c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. C'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Et donc c'est au fruit de l'esprit que l'on reconnaît la présence de l'esprit. Et puis je termine avec une question pour tous ceux qui nous écoutaient peut-être. Et avez-vous reçu le Saint-Esprit? Telle est la question que Paul avait posée à un certain nombre d'hommes à Éphèse. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient Et s'il ne lui appartient pas, il est sous la domination de la chair, comme ce que nous avons lu dans le chapitre 5 de Galates. Et il ne pourra pas être dans le royaume de Dieu parce qu'il est sous la domination de la chair en produisant ici les évidences des œuvres de la chair. Il demeure sous la colère de Dieu et sous son châtiment éternel. Mais s'il a l'esprit en lui, eh bien, il dit que cet homme, il a en lui le témoignage qu'il est un enfant de Dieu. Alors, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Eh bien, l'Écriture nous dit que ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le pardon de leurs péchés et le don du Saint-Esprit. C'est l'expérience qu'a vécue Corneille, rappelez-vous. Pendant que Pierre prêchait la parole, et au moment où il dit, que les prophètes rendent de lui, de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Il croit à cette parole. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient cette parole. Et si vous écoutez cette parole aujourd'hui, eh bien vous pouvez venir à Jésus-Christ, placer votre confiance en lui et recevoir le pardon de vos péchés et le don du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous guide et nous aide à considérer cette chose. Oui, l'Évangile nous libère, mais pour nous transformer. Pour nous transformer par l'Esprit Saint que Dieu fait habiter en nous. Et cette transformation, elle est visible. Et elle se manifeste par des fruits qui sont cités ici et que seul l'Esprit peut produire. Personne ne peut développer cela dans sa vie s'il n'a pas l'Esprit de Christ qui habite en lui. Parce que ce sont les œuvres de l'Esprit. Ce sont les œuvres que l'Esprit seul peut produire. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Et merci parce que tu nous libères de l'esclavage, de devoir présenter par nous-mêmes des œuvres que nous ne pouvons pas accomplir pour te suivre. Seigneur notre Dieu, nous te demandons vraiment de nous donner de considérer encore cette liberté que tu donnes à ceux qui viennent à toi et que ton esprit opère dans les cœurs. La liberté de marcher avec toi, la liberté de nous détourner du mal, la force de dire non, Seigneur, la liberté d'avoir cette vie merveilleuse qui se développe en nous de jour en jour. Oh, nous te louons, Seigneur, que tu nous donnes de nous garder de cette pensée que la liberté est une occasion de faire ce que nous voulons, mais plutôt que nous comprenions vraiment quelle est la puissance que tu nous donnes pour nous soumettre encore davantage à la direction de ton esprit, à l'obéissance à ta parole. Nous te prions d'agir dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Amen.